Excellent réveil à tous, voici le journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. D'humoriste à président de la République, il n'y a qu'un pas, en tout cas pour Volodymyr Zelensky. Il triomphe à la présidentielle en Ukraine. Nous irons à Kiev dès le début de ce journal. Et puis cette tendance qui vise à porter au pouvoir ceux qui n'ont aucune expérience dans le domaine, ce sera le thème du billet politique de Frédéric Saïs, juste après ce journal.
Et puis nous ferons aussi le point sur la situation au Sri Lanka. En quelques heures hier, des attentats ont fait près de 300 morts dans des églises et des hôtels.
Dans ce journal, nous irons aussi à Khartoum, au Soudan. Les manifestants s'attendaient à ce que l'opposition propose un nouveau gouvernement civil. Il n'en est rien, les négociations sont au point mort.
Et puis en France, une enquête est ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
Une enquête après les slogans plus que douteux lancés par des manifestants samedi à Paris en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Ils ont appelé les policiers à se suicider. 3, 2, 1. Sur scène pendant 20 ans, il a tourné en dérision la politique ukrainienne. Le voilà maintenant à la tête du pays. Volodymyr Zelensky, comédien et humoriste jusqu'ici, devient président de la République. L'homme de télévision l'emporte avec plus de 72% des voix face au sortant Petro Poroshenko. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
En direct de Kiev pour France Culture, l'Ukraine se réveille donc avec un président d'un genre nouveau.
Ah oui, un nouveau président, mais surtout un président qu'il est difficile de cerner. Vous savez, hier soir, on a eu droit à des confettis dans la salle de presse, là où s'est exprimé Zelensky, pour donner l'illusion de la fête, mais dans la réalité, il n'avait pas grand-chose à dire.
Я просто хочу сказати дякую.
Imaginez un peu, il est arrivé avec sa femme, il était entouré de quelques proches, il s'est exprimé une minute trente pour dire merci à sa famille, à ses amis, à sa femme de ménage, et voilà, ça semble un peu surréaliste. Zelensky a passé toute la campagne à tourner en dérision les institutions, à fuir les questions, si bien que personne ne sait véritablement ce qu'il va faire, comment il va le faire et avec qui il va le faire.
Et comment ont réagi les Ukrainiens à l'élection de leur nouveau président ?
Alors, les Ukrainiens, c'est comme si vous me demandiez comment les Français ont réagi après avoir vu une émission de télé-réalité. Ben, ils ont éteint leur poste de télévision, ils sont allés se coucher. Place Maidan, vous savez, c'est l'équivalent de la place de la République à Paris. C'était le grand calme entre ceux qui n'étaient pas encore au courant et ceux qui ne se font pas d'illusions. Difficile de trouver des partisans, juste quelques électeurs et électrices satisfaits du résultat de l'élection.
On a voté pour lui. On est bien content.
Donc il va changer les choses.
Vous savez, quand je suis взрослый человек, так мне бы хуже не было.
Je suis quelqu'un d'adulte, donc je dis pourvu que ce soit pas pire.
Est-ce que vous êtes content de votre nouveau président?
Я ещё не знаю, кто президент.
Je sais pas encore qui c'est.
Zelensky.
Зеленский президент?
Si.
Если он доволен.
Je suis content.
Pourquoi?
Ну, почему? Потому что молодой, хочется поверить ему.
C'est parce qu'il est jeune et on a envie de le croire.
Peu d'illusions, vous le voyez, il paraît que les Ukrainiens sont ainsi, ils ont voté, ils tournent la page.
Bon, et alors maintenant, Nathanaël, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines pour ce nouveau chef d'État ?
Alors, Zelensky ne sera président que dans un mois environ. D'ici là, il a promis hier soir qu'il allait aller à la rencontre des Ukrainiens. Il avait aussi dit pendant sa campagne qu'une fois élu, il irait rencontrer les dirigeants français, allemands, américains. Pour le reste, honnêtement, c'est le grand flou. Il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale rapidement pour essayer d'avoir une majorité. La bataille, dans un premier temps, sera une bataille politique, on va dire. Et la dérision et l'humour de Zelensky ne suffiront peut-être pas cette fois pour la gagner.
Nathanaël Charbonnier en direct de Kiev pour France Culture avec Laurent Macchietti. Merci beaucoup à tous les deux. En Macédoine, c'est le pro-européen Stevo Pindarovski qui arrive en tête de la présidentielle. Deuxième tour prévu ici le 5 mai. À la une, également ce matin, la douleur au Sri Lanka en ce dimanche de Pâques ensanglanté. Une vague d'attentats a fait au moins 290 morts dans des églises et des hôtels. Près de 500 personnes sont blessées et cela ravive des souvenirs douloureux sur l'île. Raola Atalage est professeur d'université à Colombo, la capitale.
Immediately, the government declared state of emergency.
Le gouvernement a immédiatement déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. Les leaders religieux de toutes les confessions, le président et le premier ministre, ont demandé à la population de rester calme et unie pour essayer de trouver les responsables de ces attentats qui veulent déstabiliser le pays. Même pendant les 30 ans de guerre civile, le Sri Lanka n'avait jamais connu de telles attaques simultanées en si peu de temps. Les gens pensaient que les choses avaient changé depuis la fin du conflit il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve à nouveau plongé dans la même situation que pendant la guerre, quand il fallait être vigilant et faire toujours attention à ce qui se passait autour de nous. C'est très difficile à gérer.
13 hommes ont été arrêtés. Ils appartiennent tous au même groupe radical, selon les premières informations. Mais on ne sait pas encore quels sont leurs liens avec ces attaques. Aucune revendication pour l'instant. Ce qui semble assez clair, en revanche, Audrey Tison, c'est la cible de ces attaques, la communauté chrétienne du Sri Lanka.
Des chrétiens très minoritaires dans le pays. Seulement 7% de la population, une communauté réputée pacifiste. Pourtant, elle avait déjà été ciblée ces dernières années.
Depuis 2009, on assiste à la multiplication des actes contre cette communauté. Pas des actes de grande ampleur, mais des avanies quotidiennes.
Anthony Gros-Ponceau est enseignant-chercheur à Bordeaux. Il nous répond depuis l'Inde. D'après lui, tout se passe comme si on cherchait des boucs émissaires depuis la fin de la guerre avec les Tamouls. Les musulmans ont été plusieurs fois attaqués par des extrémistes. Bouddhistes. Cette fois, ce sont les chrétiens qui sont visés, peut-être parce que cette religion a des croyants dans différentes parties de la population.
Les Singhalais sont chrétiens, mais également les Tamouls. Donc les chrétiens sont les seules personnes à unifier en fait la communauté, à unifier les antagonismes antérieurs entre Singhalais et Tamouls. Je ne serais pas étonné que les attentats soient revendiqués par un groupe plus que le musulman, mais je ne voudrais pas faire non plus de la prospective.
Cette piste islamiste est en effet envisagée par les enquêteurs. Le groupe NTJ notamment préparé des attentats contre des églises d'après les services de renseignement. D'autres pistes sont ouvertes, comme celle d'extrémistes bouddhistes qui chercheraient à semer la terreur dans le pays.
Audrey Tison, et on apprend ce matin qu'une bombe artisanale a pu être désamorcée hier soir, découverte sur la route vers l'aéroport de Colombo. Au moins 11 soldats maliens tués près de la frontière mauritanienne. Des djihadistes présumés ont attaqué hier un poste de l'armée. Terminées les discussions entre militaires et responsables de la contestation au Soudan, au moins pour le moment. L'opposition les suspend, Nadia Blétri, au grand dam des nombreux manifestants massés devant le QG militaire à Khartoum.
Le retournement est saisissant. En quelques minutes, la liesse fait place à l'abattement. Des groupes entiers de manifestants quittent en silence le sit-in devant le quartier général de l'armée où s'est organisée la contestation contre le pouvoir. Ils sont totalement assommés.
On est venu dans l'espoir d'avoir un nouveau gouvernement et malheureusement, on n'a rien eu.
Les représentants de l'opposition devaient dévoiler dimanche soir le nom de personnalités susceptibles de former un gouvernement civil. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La journée de dimanche a au contraire scellé la fin des négociations entre les contestataires du régime et le conseil militaire. Sajidine, une jeune étudiante, ne décolère pas.
Mon père a été tué par le régime d'Omar el-Béchir. Nous, on a fait la révolution. On a pensé qu'on avait gagné. Mais jusqu'à présent, le conseil militaire transitionnel contrôle tout, même s'il agit sans savoir ce qu'il fait.
Les représentants de l'opposition ont appelé les manifestants à intensifier le mouvement, un mot d'ordre entendu par leurs partisans, dont les chants hostiles au pouvoir résonnaient dans les rues de Khartoum dimanche soir.
Le reportage RFI de Nadia Blétri pour France Culture. Une accusation de plus pour Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, est poursuivi au pénal par Nissan, justement pour abus de confiance aggravé. C'est la quatrième mise en examen pour l'homme d'affaires. Il est soupçonné d'avoir détourné 5 millions d'euros au détriment du groupe automobile. Sa garde à vue doit être levée aujourd'hui. Favori, mais embarrassant, Bernie Sanders donne du fil à retordre aux démocrates américains. La présidentielle, c'est l'année prochaine, mais la primaire est déjà bel et bien lancée outre-Atlantique. Et en attendant que l'ancien vice-président Joe Biden officialise sa candidature, Bernie, comme on l'appelle, fait figure de numéro un, ce qui en fait trembler plus d'un au sein du parti et de l'électorat démocrate, Louis Clory.
Bernie Sanders sera-t-il une malédiction pour le camp démocrate? Au sein du parti, un mouvement Stop Sanders est en train de s'organiser. Une partie de l'électorat lui reproche toujours la défaite de 2016. Son bras de fer contre Hillary Clinton aurait affaibli les démocrates. Ce n'est pas ce que pense Daichel derrière le comptoir du Little Whiskey à Brooklyn. Bernie, dit-il, aurait dû l'emporter il y a 3 ans.
Je suis un fan de Bernie Sanders. Je veux voter pour lui pour deux raisons. Des soins gratuits pour tous, des universités moins chères. Voilà ce qui excite les électeurs. électeurs. La dernière fois, la commission du parti lui a mis des bâtons dans les roues. Sans cela, je pense qu'il aurait probablement remporté la présidentielle.
Pourtant, dans cette primaire pléthorique, la question est lancinante. Bernie Sanders, sénateur indépendant, socialiste autoproclamé, peut-il rallier au-delà de sa base ? Sarah, cliente de ce même bar, estime qu'il a manqué sa chance et qu'il doit laisser la place aux jeunes.
Bernie est génial, mais son heure est passée. Il a forcé tout un tas de candidats très libéraux à s'aligner sur lui. Je ne pense plus qu'il soit le meilleur choix. On a désormais d'autres candidats inspirés par ses idées.
L'hostilité d'une partie de son camp, en tout cas, est déjà un argument de campagne. Mercredi, Bernie Sanders dénonçait ainsi les complots d'un establishment déterminé à faire échouer sa révolution politique. On est très loin d'un message d'unité.
France Culture à New York avec Loïc Loury.
8h10 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Rosalie Lafarge, avec des mots très violents prononcés samedi à Paris à l'encontre des policiers.
Suicidez-vous, voilà ce qu'on a pu entendre dans la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris comme un slogan lancé aux forces de l'ordre, alors que la police est touchée par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année. Une enquête est ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Christophe Rouget est secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT.
Nous réclamions cette enquête. Elle est nécessaire. Nous sommes dans un contexte de fatigue physique très lourd, lié à 23 semaines de conflit social. Nous sommes dans un contexte de fatigue morale, parce que nous faisons l'objet en permanence de critiques au quotidien. Notre travail est remis en cause sur la gestion du maintien de l'ordre. Donc cette enquête, elle était nécessaire dans un contexte d'une vague de suicides sans précédent dans la police nationale, qui touche depuis le début d'année tous nos collègues sur l'ensemble du territoire. Et je crois que cette enquête, elle devra permettre d'identifier ces individus qui étaient en réunion, ce qui est d'autant plus grave, de les sanctionner, mais qu'au-delà de cette sanction pénale, qui devra être forte, le plus important est de mettre nom sur des visages, sur l'abject, sur l'ignominie.
Christophe Rouget du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Après ce 23e samedi de mobilisation, Emmanuel Macron doit faire des annonces cette semaine. Pouvoir d'achat, retraite, démocratie. Le président va dresser son bilan du grand débat national jeudi soir. En attendant, l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, a déjà fait les comptes pour cette année. Et la promesse, c'est un pouvoir d'achat en hausse. 850 euros de plus en moyenne par ménage. Une augmentation inédite depuis plus de 10 ans, souligne Mathieu Plane, il est économiste à l'OFCE.
On note un vrai rebond sur 2019 qui est très concentré sur 2019 avec un vrai booster des mesures fiscales. Dedans, il y a la prime d'activité, la défiscalisation des heures sup, la baisse de la CSG, l'annulation de la taxe carbone, la baisse de la taxe d'habitation, les baisses de cotisations salariales. Enfin, voilà, donc c'est une liste assez longue. Mais il faut quand même aussi rappeler qu'il y a eu 10 ans globalement de difficultés autour du pouvoir d'achat et que donc ce rebond, c'est quelque chose qui est bienvenu. Pour autant, on peut pas dire que les choses vont extrêmement bien non plus. Parce que ça fait 10 ans globalement qu'on a une situation d'évolution qui est mauvaise, globalement du pouvoir d'achat, donc on peut même parler de crise du pouvoir d'achat depuis 10 ans. Nous, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un rebond fort sur 2019 du pouvoir d'achat, donc il faut revenir plus de 10 ans en arrière pour trouver à peu près ça, mais qui se poursuit pas forcément sur la suite, sur 2020-2021. Et tout ça est conditionné aux annonces, bien sûr, qui vont arriver.
Les précisions de l'économiste Mathieu Plane. Les annonces du président devaient à l'origine avoir lieu la semaine dernière. Elles ont été reportées après l'incendie à Notre-Dame de Paris. Et justement, ce lundi de Pâques a un goût un peu amer pour la maîtrise Notre-Dame de Paris, aussi vieux que la cathédrale. Cet ensemble va devoir se réinventer. Il n'a plus de lieu de concert. Plusieurs instruments ont été perdus ou endommagés. Et ce n'est évidemment pas facile à encaisser, Julie Pietri.
Il a passé la moitié de sa vie à chanter dans la cathédrale. Mathieu Valenzic, 22 ans, a commencé enfant à l'âge de 11 ans.
11 ans à côtoyer la cathédrale quasiment quotidiennement, ça fait drôle de se dire qu'il y aura un changement maintenant. On a tous pris un coup énorme. Après, effectivement, je pense que nous, on doit continuer à faire en sorte que l'esprit de la cathédrale subsiste à travers nos chants.
On était très liés, on est très liés à Notre-Dame.
Clémence Vidal, mezzo-soprano.
Ça va être difficile, justement, de s'en détacher momentanément. Mais voilà, on continue de chanter ensemble et c'est l'essentiel.
L'effervescence de la Semaine Sainte s'achevant, l'heure est à une sorte de premier bilan. Henri Chalet, directeur de la maîtrise Notre-Dame de Paris.
Évidemment, du point de vue des instruments, c'est pas simple pour nous parce que le grand orgue, même s'il n'a pas pris l'eau ni le feu, il va falloir le restaurer. On a perdu un piano à queue qui était dans les sous-sols pour les répétitions. On a énormément d'invitations des églises parisiennes pour nous accueillir temporairement. je n'ai pas trop le temps de déprimer.
La maîtrise, qui devait jusqu'à l'incendie de la cathédrale assurer près de 1000 offices par an, va se réorienter un temps vers l'extérieur, avec le projet de rayonner avec un concert chaque semaine en France et partout dans le monde, auprès de formations prestigieuses.
Le reportage de Julie Pietri. Ça souffle sur la Corse du Sud, placée en vigilance orange pour vent fort. Ailleurs, le temps reste printanier, malgré pas mal de nuages et quelques averses du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Côté température, le thermomètre dépasse facilement les 20 degrés cet après-midi.